Seigneur, soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc.
Gloire à toi, Seigneur.
Quand arriva le moment où Élisabeth devait enfanter, elle mit au monde un fils. Ses voisins et sa famille apprirent que le Seigneur lui avait prodigué sa miséricorde, et ils se réjouissaient avec elle. Le huitième jour, ils vinrent pour la circoncision de l'enfant, ils voulaient le nommer Zacharie comme son père. Mais sa mère déclara, « Non, il s'appellera Jean. » On lui répondit, « Personne dans ta famille ne porte ce nom-là. » On demandait par signe au père, comment il voulait l'appeler. Il se fit donner une tablette sur laquelle il écrivit « Son nom est Jean ». Et tout le monde en fut étonné. À l'instant même, sa bouche s'ouvrit, sa langue se délia, il parlait et il bénissait Dieu. La crainte saisit alors les gens du voisinage et dans toute la montagne de Judée, on racontait tous ces événements. Tous ceux qui les apprenaient en étaient frappés et disaient « Que sera donc cet enfant ?» En effet, la main du Seigneur était avec lui. L'enfant grandit et son esprit se fortifiait. Il alla vivre au désert jusqu'au jour où il devait être manifesté à Israël. Acclamons la parole de Dieu.
Louange.
Vous avez été peut-être étonné ce matin lorsque vous avez lu les lectures en préparation de la messe du titre que porte la solennité que nous fêtons en ce jour. Il s'agit de la solennité de la nativité de Saint Jean-Baptiste. Or, quand on fête un saint, ce n'est pas tellement le jour de sa naissance qu'on fête, mais plutôt le jour de son entrée au ciel, le jour de sa mort. Et pourquoi l'Église, dès le début, a voulu fêter Jean-Baptiste et sa nativité? Pour rappeler que la vocation de Jean-Baptiste, dès le commencement, dès le sein maternel, comme dit la première lecture, la vocation de Jean-Baptiste a été d'être précurseur, d'être prophète. Il a été choisi pour annoncer la venue du Christ. La position de Jean-Baptiste et comme la position de tous les prophètes, très inconfortable. Il est à la charnière de l'Ancien et du Nouveau Testament, il est un homme pétri de l'Écriture, et en même temps, il doit annoncer la présence de Jésus, annoncer la présence du royaume qui, en la personne du Christ, est déjà au milieu de nous. Et à travers cette vocation de prophète, c'est intéressant de voir les lectures qui nous disent aussi quelque chose que nous portons nous-mêmes. Par le baptême, nous sommes aussi prophètes, nous disons le royaume de Dieu, nous disons la vocation de tout homme et de toute femme à partager pour toujours l'intimité avec le Seigneur. Et ce qui est marquant dans toutes les vocations, et ce sont des passages de l'Écriture très bouleversants, la vocation, comment est-ce que Dieu s'adresse à un homme, à une femme pour pouvoir annoncer ses merveilles. Au fond, il choisit notre humanité, il choisit notre vie pour pouvoir rendre témoignage du royaume. Eh bien, vraiment, sentons-nous, par le baptême, vraiment choisis, privilégiés de la part du Seigneur. Nous sommes des privilégiés d'être choisis par Dieu, d'être d'abord le premier appel, l'appel à la vie, l'appel à l'existence. Et on voit bien, et c'est assez mystérieux, dès le sein maternel, Jean-Baptiste a été marqué de la part du Seigneur, a été choisi. C'est ce que rappelle le psaume 138, quand il dit « Tu m'as créé jusqu'en mes profondeurs, tu m'as formé dans le sein maternel ». Le fait d'être serviteur, c'est ce que dit la première lecture, « Tu es mon serviteur Israël, en toi je me glorifierai ». Le fait d'être serviteur du Seigneur, et en particulier Jean-Baptiste, c'est un privilège. Et ayons conscience, nous aussi, que à travers ce service du Seigneur, chacun a notre place dans l'Église, comme baptisé, comme dans la vie matrimoniale, familiale, professionnelle, la vie sacerdotale et religieuse, quels que soient les états de vie, eh bien, par le baptême, le Seigneur nous choisit, le Seigneur nous appelle. C'est dire aussi que c'est l'action de grâce qui doit naître de notre cœur pour cette solennité de la nativité de Saint Jean-Baptiste, parce que c'est le rappel aussi que notre existence, dès le début, a été marquée par le sceau du Seigneur pour pouvoir être son témoin au milieu du monde. Mais il y a évidemment dans la vocation des prophètes, et Jean-Baptiste est le plus grand de tous les prophètes, il y a ce que l'on voit aussi, cet appel à parler à temps et surtout à contre-temps. Et on voit dans le prophète Isaïe, « Je me suis fatigué pour rien, c'est pour le néant en pure perte que j'ai usé mes forces. » Vous liriez aussi dans le prophète Jérémie, qui à un moment donné en avait complètement marre d'être prophète, il dit « Mais je subis l'outrage de toutes parts, eh bien, pourquoi est-ce que tu m'as choisi, Seigneur? Pourquoi au fond croire en toi? Pourquoi répondre à cet appel ?» Et ça nous fait du bien de voir que les prophètes sont des personnes comme nous, avec leur moment de révolte, de doute, leur moment de difficulté, où au fond, et peut-être nous-mêmes nous disons, mais suivre le Christ, l'Évangile, ça, c'est complètement aujourd'hui suranné, aller à contre-courant, mais à quoi bon au fond tout ça? Est-ce qu'on se complique pas la vie? Et puis on est montré du doigt, et puis l'Église on la comprend pas, et puis ceci, et puis cela. Et on voit dans les prophètes au fond ce passage, à un moment donné de leur existence, où il faut qu'ils rechoisissent leur vocation, il faut qu'ils rechoisissent leur appel. Et ça nous fait du bien justement parce que nous aussi, comme baptisés, ou dans la vie matrimoniale, dans les différents états de vie où nous sommes, nous avons à rechoisir l'appel du Seigneur pour pouvoir vraiment rendre ce témoignage et accueillir dans les circonstances de notre vie, ces circonstances que l'on ne choisit pas, mais dans les circonstances particulières de notre vie, de dire là aussi il y a une parole à annoncer à nos contemporains, là aussi il y a une parole à dire. Pour le prophète, toutes les époques sont difficiles, toutes les époques sont difficiles. Et on dit, mais oui, aujourd'hui, avant c'était mieux, etc. Et j'aime beaucoup cette parole de saint Augustin qui, au 5e siècle, parlait aux personnes qui disaient, mais le 4e siècle c'était beaucoup mieux. Vraiment, les gens étaient plus sympathiques, etc. Et saint Augustin qui disait, mais écoutez, non, soyez bons et les temps seront bons. Nous vivons une période absolument passionnante de l'histoire de l'Église où nous avons à témoigner. Ce n'est pas plus facile, mais peut-être pas plus difficile qu'auparavant, mais nous avons à témoigner en nous appuyant sur la force du Seigneur. Et c'est là où on voit le prophète Isaïe qui dit « Oui, j'ai du prix aux yeux du Seigneur, c'est mon Dieu qui est ma force ». Et c'est vrai que, en tout cas en France, la fragilité que connaît l'Église dans le manque de vocation sacerdotale, religieuse, ou une certaine désaffection de la pratique, on peut dire « Mais au fond, est-ce que ce n'était pas quelque chose du passé ?» Non, au contraire, le Seigneur nous dit « Appuyez-vous sur moi, alors oui, vous pourrez annoncer les merveilles de celui qui nous a appelés des merveilles à son, des ténèbres à son admirable lumière. » Alors oui, on peut dire que si la vocation de prophète, c'est le choix de Dieu, si l'on est appelé à passer par des moments parfois difficiles, et quelle vie n'a pas sa tempête, quelle famille n'a pas sa tempête, quelle communauté, quelle paroisse, quelle église n'a pas sa tempête, mais au fond, au creux de ces difficultés, le prophète Isaïe redit, ben, « J'ai du prix aux yeux de Dieu, c'est mon Dieu qui est ma force. » Mais il y a encore autre chose. Non seulement le prophète est choisi, il doit traverser l'épreuve, mais en plus il est appelé toujours plus loin à donner, à rendre témoignage. « C'est trop peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus d'Israël et ramener les rescapés, les tribus de Jacob et ramener les rescapés d'Israël. » qui était en exil à un moment où on parle le prophète Isaïe. On dit, c'est déjà pas mal. de ramener, relever les tribus de Jacob, ramener les rescapés d'Israël. Mais non, alors je vais faire de toi la lumière des nations. Hein, les nations dans le langage biblique, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas dans le peuple élu, dans, qui n'ont pas reçu cette alliance du Seigneur, pour que mon salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. Et notre vocation prophétique aussi, reçue dans le baptême, nous emmène aussi plus loin que ce qu'on aurait pensé au départ, plus loin que nos prévisions, plus loin que nos calculs, nous amène au fond à faire confiance. Et on voit bien ce qui a été la caractéristique de Jean-Baptiste, ça a été, et c'est pour ça aussi que c'est le patron de tous les maîtres des novices, hein, Jean-Baptiste qui indique le chemin de la suite du Christ, ça a été aussi la confiance. La confiance, lui-même qui est passé par des moments de doute, vous vous rappelez peut-être ce passage de l'Écriture où Jean-Baptiste se pose des questions, il se dit, mais est-ce que c'est bien... Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ? Voilà, au fond de sa prison, Jean-Baptiste qui interpelle le Seigneur et qui dit, est-ce que c'est bien ? Eh bien oui, nous sommes appelés à cette confiance dans la présence du Seigneur, à cette foi dans la parole de Dieu, à cette foi dans la grâce reçue à travers les sacrements, en particulier l'Eucharistie, la réconciliation, pour pouvoir aller plus loin dans le témoignage et l'annonce du Seigneur. C'est dire aussi que nous sommes, au fond, le Seigneur nous fait une confiance formidable. Il nous fait une confiance formidable, il nous choisit en nous connaissant mieux que nous-mêmes. Et le même saint Augustin dira, il est plus intime à nous-mêmes que nous-mêmes. Et nous-mêmes, on voit bien, on est fait de creux et de bosses, on est fait de grandes difficultés parfois à tenir nos engagements, à tenir notre parole, à cheminer dans les traces du Seigneur. On se dit, mais Seigneur, est-ce que tu t'es pas trompé au fond? Mais regarde, est-ce que c'est pas l'autre au fond qui devrait t'annoncer, annoncer ton nom? Est-ce que c'est pas... Eh bien non, je t'ai choisi pour être la lumière des nations, hein, pour... annoncer jusqu'aux extrémités de la terre mon salut. Donc c'est cette, au fond, cette humilité qui nous emmène plus loin. C'est ce que l'apôtre saint Paul remarque de la vie de saint Jean Baptiste. Il nous dit, celui auquel, il nous cite saint Jean Baptiste, celui auquel vous pensez, ce n'est pas moi, je ne suis pas digne de lui défaire ses sandales. C'est au fond cette humilité qui nous permet les plus grands projets. C'est l'humilité qui est aussi la source de la grandeur d'âme. La grandeur d'âme, c'est-à-dire c'est ce désir des grandes choses, du beau, du vrai, pour le Seigneur, et aller au-delà même de nos calculs, au-delà même de nos prévisions, pour rentrer dans une autre dimension. C'est au fond cette humilité aussi que Zacharie, le père de Jean-Baptiste, a dû avoir, lui qui a eu, comme la Vierge Marie, une annonciation, mais qui n'a pas cru et qui est resté muet jusqu'au jour de la naissance de Jean-Baptiste, où là, il a dit oui, son nom est Jean et sa bouche s'est déliée. C'est-à-dire, au fond, parce que nous faisons confiance au Seigneur, parce que nous acceptons, nous recevons de sa main les circonstances de notre vie quotidienne, alors oui, nous pouvons parler, alors oui, nous pouvons annoncer la présence de Dieu. Aujourd'hui, nous, un certain nombre d'entre vous sont là pour une journée organisée par l'association pour la restauration de l'abbaye, et il est bon de voir que restaurer une abbaye, ce n'est pas restaurer simplement un monument historique quelconque. Ceux qui ont construit les cathédrales, ceux qui ont construit ces abbayes, c'est bien parce qu'ils voulaient, à travers les pierres, dire quelque chose du royaume de Dieu. Le patrimoine spirituel est aussi, à sa manière, prophète, signe annonciateur d'un royaume auquel le Seigneur nous appelle. Et j'aime aussi à faire la comparaison avec cette parole du Seigneur. Eh bien, si vous ne parlez pas, eh bien, ce seront les pierres qui crieront. Aujourd'hui, où nos contemporains pensent vivre sans Dieu et croient à une vie sans le Seigneur, sans la dimension spirituelle, ou une dimension spirituelle simplement réservée au domaine privé, et surtout il ne faut pas trop en parler, il y a beaucoup de pudeur dans le domaine professionnel, dans le domaine social, politique, que sais-je. Dans d'autres pays, il en va autrement, où les gens sont plus libres et plus simples avec ces questions-là. Eh bien, j'aime à penser que tout ce patrimoine spirituel rappelle non pas quelque chose du passé, mais quelque chose du présent, parce que ce royaume de Dieu, il est aussi présent au milieu de nous, et les différents chantiers que nous avons entrepris grâce à l'aide de l'association, eh bien, nous les faisons dans cet esprit-là, parce que nous pensons que, au fond, un patrimoine, et c'est la vision sociale de l'Église aussi, un patrimoine, c'est d'abord une responsabilité face à nos contemporains, avant d'être une propriété. Et c'est donc dans cette perspective-là que nous voulons entretenir, embellir, sauvegarder le patrimoine que nous avons, pour pouvoir non seulement en faire bénéficier d'autres, mais pour rappeler aussi aux générations que ces hommes qui ont bâti les cathédrales et les monastères, c'est une vie intérieure qui les animait. C'était le désir d'être prophète à leur manière, signe du monde à venir, signe de celui qui vient. Alors, comme ça change tout à fait la perspective du travail et la perspective des chantiers que nous pouvons entreprendre, parce que nous les entreprenons avec un esprit particulier, et nous demandons aussi cet esprit qui a habité ces hommes qui ont construit cette abbaye, l'esprit de Saint Bernard qui, par toute l'Europe, a édifié aussi des abbayes cisterciennes, eh bien c'est un esprit de foi. Et à nous aussi, avec les circonstances particulières de notre époque, nous sommes appelés, en reprenant un patrimoine spirituel, en étant le détenteur, le gérant, c'est comme ça que nous voyons les choses. Nous sommes simplement gérants, nous ne sommes pas propriétaires. Alors oui, il y a un titre de propriété, mais dans la vision de l'Église, toute propriété implique une responsabilité par rapport au prochain, implique au fond un appel à rendre des comptes. Et donc oui, nous voulons, à travers les différents chantiers entrepris, eh bien être habité par l'esprit de ces hommes et rendre témoignage à notre manière, par ce moyen-là, et puis par d'autres manières aussi, la communauté est appelée à rendre témoignage, bien rendre témoignage d'une certaine vision de l'homme, que l'homme n'est pas simplement réduit à l'accumulation des biens, que l'homme n'est pas simplement réduit à cette terre, qu'il est appelé plus loin. Non seulement je t'ai choisi pour relever les tribus de Jacob, mais je t'ai choisi pour être annoncé à toutes les nations, être lumière pour les nations. L'homme est appelé plus loin et à prophétiser aussi ce royaume qui vient. Alors nous voulons en être, nous, les témoins comme communauté, vous comme baptisés. Nous voulons en être les témoins, chacun selon la grâce qu'il a reçue. Et nous rendons grâce au Seigneur de pouvoir, au fond, être les détenteurs, les gérants de ces bâtiments, parce que nous pensons qu'à travers cela, eh bien, il y a un témoignage à donner à nos contemporains, un témoignage à donner à la société civile. Et nous voulons demander cette foi de Jean-Baptiste, cette foi et cette humilité à la fois du Seigneur pour pouvoir entreprendre et pour pouvoir aussi redire à nos contemporains ce pourquoi ils sont faits, cette vocation à habiter le cœur de Dieu pour toujours.